Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Ça marche? Oui, vous m'entendez bien?
Voilà.
Alors aujourd'hui, on va poursuivre notre itinéraire sur la manifestation de Dieu. Donc normalement, vous avez le plan. Donc vous voyez bien le plan. On articule les choses un petit peu différemment. Une première partie, deux chapitres, hein, le premier sur la révélation dans l'Ancien Testament, où je reprendrai des éléments déjà abordés la fois dernière, et puis on avancera petit à petit, au fur et à mesure. Et puis, en deuxième chapitre, la révélation, en tout cas la partie sur le Nouveau Testament, la révélation en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu se révèle, Dieu le Père se révèle. Et donc, on terminera ce cours sur cette articulation nécessaire entre Dieu a parlé dans l'Ancien Testament et Dieu s'est fait homme dans le Nouveau Testament, tel que nous le dit Jean, le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous et nous avons vu sa gloire. Donc ce premier chapitre, la révélation dans l'Ancien Testament. Donc Dieu se révèle dans l'histoire d'Israël. Donc vous voyez, on a fait un bond entre Abraham, Moïse. À partir de Moïse, on parle du peuple, ce qui n'était pas le cas au moment où Dieu s'adresse à Abraham. Mais donc considérons ce peuple élu, donc ce peuple qui est le premier à avoir fait l'expérience de la rencontre avec Dieu et avec Dieu qui lui parle. Et Dieu parlant à ce peuple-là, dans cette région particulière du monde, eh bien ce peuple est non seulement le peuple élu, mais il est le peuple élu d'Israël. Et quand on dit le peuple élu d'Israël, alors on doit voir deux dimensions. Deux dimensions à prendre en compte. D'abord l'élection, qui est un thème éminemment théologique. Dieu a choisi un peuple particulier, et c'est le peuple élu, c'est lui qui a été choisi. Et la deuxième dimension, c'est la réception. À l'élection répond la réception de la révélation de Dieu. Donc Dieu, s'il est l'initiateur de la création, de son auto-manifestation, c'est-à-dire Dieu qui se manifeste lui-même par lui-même, son auto-manifestation, il est donc l'émetteur et il lui faut un récepteur. Et ce peuple doit pouvoir recevoir non seulement les paroles que Dieu prononce, mais les paroles de révélation, et on l'a vu avec Abraham, ces paroles commencent par une promesse. Donc l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament ne va pas seulement relater le cheminement d'hommes qui ont été à la rencontre de Dieu par l'intermédiaire des prophètes, parce que c'est quand même le cas, le peuple élu a accès à la parole de Dieu, mais pas directement, par des prophètes à qui Dieu s'est adressé par contre directement. Et donc, l'Ancien Testament ne va pas relater uniquement ce cheminement-là, il va relater d'abord que cette élection, que cet événement de la révélation de Dieu est dans l'histoire des hommes un fait historiquement identifiable. Cela veut dire que ce peuple est identifié, c'est le peuple élu d'Israël, les prophètes sont identifiés, on a leur nom, on sait quand ils vivent, on sait qui est leur roi, on sait ce qu'ils disent au roi et ce qu'ils disent au peuple, on sait que la plupart du temps ils interviennent auprès du roi parce qu'il y a des faits d'injustice vis-à-vis du peuple. Et donc, toute cette réalité-là, c'est une réalité historique que les historiens peuvent identifier. Si un prophète s'adresse à un roi, ce roi, il est connu de l'histoire parce qu'il est identifié sur une période particulière. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut entendre le terme historiquement identifiable. Donc on n'est pas dans un récit légendaire, parce que la vérification historique vient donner du crédit à ce que l'Ancien Testament, dans certains passages de l'Ancien Testament, peut être vérifié. À l'inverse, il y a des passages dans l'Ancien Testament qui sont totalement, je ne sais pas quel est le terme, qui entrent dans le mythe. Adam et Ève, bien entendu qu'on est dans un récit mythique. On n'est pas dans le récit de la création biologique, scientifique, telle que les scientifiques peuvent bien entendu que non, on n'est pas. C'est la manière dont les hommes ont imaginé, ont compris comment Dieu a créé le monde et a créé les hommes et les femmes et les animaux et la flore et la faune, etc. Donc vous voyez bien, dans l'Ancien Testament, on est face à deux types de récits. C'est pour ça que les études que vous commencez et que vous allez poursuivre aussi en Bible vont pouvoir vous aider à identifier les genres littéraires, la tenue, la teneur des textes que vous lisez, que vous priez ou que vous étudiez. Mais pour ce qui est des prophètes, on est là dans des faits historiquement identifiables. Parce que Dieu s'est adressé à des hommes particuliers, voilà. Ces hommes sont devenus ses messagers, voilà. Et donc, ses prophètes. Et donc, ces prophètes, ils sont connus, pardon, de leur milieu. Ils vivent, je ne sais pas comment on pourrait dire, dans leur cité, dans leur... On ne peut pas parler de quartier, je ne sais pas comment était agencée ou organisée la vie à cette époque-là, mais en tout cas, ils vivaient ensemble, ils étaient connus et ils étaient reconnus. Donc les prophètes, non seulement ils sont connus du milieu où ils vivent, et donc leur parole a un certain poids. Leurs paroles sont accueillies avec, on pourrait dire, avec respect. D'autant plus lorsque leurs paroles sont des paroles issues d'un message de Dieu. Donc, le peuple reconnaît, en quelque sorte, la différence entre les paroles du prophète et les paroles que le prophète transmet de la part de Dieu. Donc le prophète, c'est un transmetteur, en quelque sorte. C'est un médiateur. Et cela nous dit beaucoup aussi de la... J'allais dire de la théologie, aussi du Nouveau Testament, et même de ce qu'est la religion chrétienne, c'est-à-dire une religion de médiation. Cette idée de médiation, elle existe dès l'Ancien Testament. Les prophètes sont les médiateurs du Seigneur. Ils ne transmettent pas autre chose que ce que le Seigneur leur dit de transmettre et de dire soit au peuple, soit au roi. Et donc, comme ils sont socialement ancrés dans leur milieu et connus, alors leur histoire est transmise oralement. Bien entendu, on est dans une période où l'oralité est fait droit. largement transmise oralement avant d'être écrite, très postérieurement en fait. Mais si nous reprenons l'essentiel de tout cela, alors nous entrons dans ce que nous appelons la révélation prophétique. C'est ça la teneur de la révélation à ce moment-là. C'est une révélation prophétique. Et c'est notre point suivant, le point 1-2. La fois dernière, avec Abraham, j'avais déjà dit quelques mots sur le milieu dans lequel le Seigneur s'adresse à Abraham. On est dans un milieu oriental. Donc ça, il faut aussi se le rappeler. Et que la révélation s'est produite dans ce milieu oriental. Et que dans ce milieu, eh bien, on a vu combien les hommes de cette époque étaient attachés aux divinations, aux prophéties, à l'interprétation des songes, et que cela organisait leur vie spirituelle en quelque sorte. Et donc peut-être même leur culte, parce que bien sûr, tout ceci était rendu de manière cultuelle. Mais cet attachement aux présages de toutes sortes montre que les hommes depuis les temps reculés ont cette idée, pas forcément consciente, enfin parler de conscience aujourd'hui c'est facile, mais bon pour l'époque la conscience, on ne savait pas trop. En tout cas ils avaient peut-être cette connaissance naturelle, on dirait plutôt, que quelque chose dépasse l'homme et les dépasse eux-mêmes dans leur connaissance du divin, en tout cas de cette dimension divine. Et on avait vu la dernière fois que les manifestations cosmologiques, telles que les orages, les tremblements de terre, etc., eh bien, étaient pour eux des théophanies, des lieux où le Seigneur pouvait se révéler. Et on l'a vu avec Moïse, et qu'effectivement, c'était des lieux étranges, mystérieux, par lesquels Dieu, le Seigneur se révélait. Et donc, dans ce milieu de divination, d'interprétation cosmologique des orages, des tremblements de terre, et donc aussi de ceux qui étaient capables d'interpréter les songes, et puis d'un autre côté, les prophètes qui recevaient la parole de Dieu, ben vous voyez bien où je veux en venir, ben effectivement, il y avait les vrais prophètes et il y avait les faux prophètes. Et toute la question était de savoir, pour le peuple, comment différencier, comment identifier les bons des mauvais. Il y avait ceux qui recouraient, donc les prophètes qui recouraient aux présages, divination, interprétation des songes, et il y avait les prophètes qui, eux, écoutaient, recevaient la parole de Dieu, la parole du Seigneur, et qui transmettaient à leur tour cette parole au peuple. Donc voilà, deux manières différentes, et donc le peuple devait arriver à identifier. Notre texte 1, Deutéronome chapitre 18, verset 9-13. Quand tu seras arrivé dans le pays que ton Seigneur te donne, tu n'apprendras pas à agir à la manière abominable de ces nations-là. Il ne se trouvera chez toi personne pour faire passer par le feu son fils ou sa fille, interroger les oracles, pratiquer l'incantation, la magie, les enchantements et les charmes, recourir à la divination, à la divinisation ou consulter les morts. Alors moi j'ai mis une suite, car tout homme qui fait cela est une abomination pour le Seigneur. Je pense que vous devez la voir, cette suite-là. Et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. Tu seras entièrement attaché au Seigneur ton Dieu. Vous les avez ? Parce que j'ai...
Moi, je l'ai pas.
Voilà. Donc, si on poursuit la lecture avec le texte 2, donc c'est un petit peu plus loin dans le Deutéronome du chapitre 18, on peut lire « C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et leur dirai tout ce que je leur ordonnerai. »
Il leur dira.
Et leur dira.
Non, il leur dirait.
Bon, voilà, corriger la faute. Voilà, tout ce que je leur ordonnerai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même, je lui en demanderai compte. Donc, vous voyez, dans ces deux extraits, on a dans le premier l'idée d'une abomination qui consiste à... C'est ce que l'on trouve dans la deuxième partie du passage. « Car tout homme qui fait cela est une abomination pour le Seigneur. » Voilà. Et on voit bien que l'abomination, c'est passer par le feu, sa fille ou sa fille. Donc on est dans un milieu où les sacrifices humains sont naturels. Voilà.
La semaine dernière, on en était là.
On en était là avec Abraham, exactement. Et donc pour Abraham, ça ne... posez pas plus de questions que cela. Ça allait, non pas que ça allait de soi, on n'irait pas à dire cela, mais on voyait bien qu'on était, c'était ça. Et donc le Seigneur, par l'intermédiaire du prophète, vient bouleverser cet ordre des choses, en disant, mais c'est une abomination. Voilà, il ne se trouvera chez toi personne pour faire passer par le feu son fils ou sa fille, ou interroger les oracles. Pratiquer l'incantation. Et donc, il dira plus loin, ben, c'est un prophète comme toi que je vais leur susciter du milieu de leurs frères. Vous voyez, les mots sont importants, là. C'est pas quelqu'un qui est pris au hasard. Il est pris au milieu de ses frères, donc il est connu, il est reconnu. Et il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Ou lui dirai, bon, c'est bizarre. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, donc là aussi c'est intéressant, parce qu'on voit bien que le prophète ne va jamais parler en son propre nom. Si ces paroles veulent avoir du crédit, il faut qu'il dise au nom de qui il parle. C'est la moindre des choses. Au nom de qui parles-tu ? Voilà, ça c'est de pouvoir identifier d'où proviennent ces paroles. Quelqu'un qui avancerait quelque chose d'étonnant, on lui dira, mais d'où tenez-vous cela ? D'où parlez-vous ? Voilà, c'est quelque chose qu'on est en droit de demander. Bien là, c'est pareil. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même, je lui en demanderai des comptes, ou je le en demanderai compte. Donc on voit bien l'importance et la conséquence que cela peut avoir aussi pour le prophète s'il ne parle pas au nom du Seigneur, parce que ça a des conséquences. Donc, chez les bons prophètes, l'expérience de la révélation, ben on l'a vu, ça se traduisait par des visions, mais aussi par de l'audition, on l'a vu avec Abraham et on l'a vu avec Moïse. Dans le texte 3 du livre des Nombres, au chapitre 12 et au verset 6, c'est là où Moïse est instauré comme le seul médiateur du Seigneur, on peut lire, il dit « Écoute donc mes paroles, s'il y a parmi vous un prophète, c'est par une vision que moi, le Seigneur, je me fais connaître à lui. » C'est dans un songe que je lui parle. Ben voilà que nous revenons au songe. Donc le Seigneur, ben finalement, il s'adresse aussi par l'entremise du songe. Donc ça veut dire que le songe, il a aussi une valeur. Mais il se trouve que la plupart du temps, les prophètes, bien sûr, ils ont des visions et des songes, et que la plupart du temps, ils reçoivent la parole divine sans vision, en dehors des songes. C'est-à-dire qu'ils vont faire des expériences qui vont être totalement dépourvues de symboles ou d'images. Parce que la parole, en dehors de l'audition, de la vision ou du songe, c'est-à-dire vraiment quand la personne n'est pas consciente, quand elle rêve, elle se fait par l'audition directe. Elle entend le Seigneur lui parler. Et donc l'audition, elle va supplanter, ou elle va compléter en tout cas le songe et, ou la vision. C'est-à-dire que c'est l'audition qui va être la clé, en quelque sorte, de vérification que le songe est réel. Vous voyez l'importance. Et que les bons prophètes, la plupart du temps, bien sûr, ils ont des visions, mais c'est toujours associé à une parole qu'ils ont entendue du Seigneur. C'est jamais que la vision ou que le songe. Ça veut donc dire qu'il y a une manifestation sensible. Voilà. La manifestation de Dieu va passer par les sens. Et finalement, quand le Seigneur se révèle dans un tremblement de terre, dans l'orage, dans un buisson qui se consume mais qui ne brûle pas, on pourrait imaginer que le Seigneur se manifeste à partir de choses connues des hommes à qui il se manifeste. Si le tremblement de terre, c'est quelque chose, une manifestation un peu cosmologique que l'homme ne comprend pas, parce qu'il ne sait pas comment cela se produit. Donc ça veut dire que cette manifestation, elle est provoquée par quelque chose que lui-même ne comprend pas, parce que lui est incapable de provoquer cette chose. Donc c'est quelque chose qui le dépasse, donc c'est quelque chose qui est au-delà de lui, donc qui est peut-être de l'ordre du divin. Donc le Seigneur va se servir, en quelque sorte, on met des guillemets, de ces manifestations associées à peut-être quelque chose de divin, voilà, même si c'est quelque chose de terrible, un tremblement de terre, pour que celui qui reçoit cela puisse l'interpréter. C'est-à-dire que le Seigneur, pour le dire autrement, va se servir de ce que l'homme comprend pour pouvoir interpréter ce qui se présente à lui. On ne peut comprendre que ce que l'on connaît. On ne peut interpréter que ce que l'on comprend à peu près. Et ce que l'on comprend, c'est généralement ce que l'on connaît, enfin, et que l'on est capable d'interpréter. Et puis ce que l'on connaît pas ou ce que l'on ne comprend pas, bah, on est bien empêché, en fait, la plupart du temps. Donc le plus fréquemment, le prophète reçoit la parole visible, la parole divine, pardon, sans vision. Et donc pour lui, c'est une expérience fondamentale, bien sûr, parce que autant le rêve et le songe, tout le monde est soumis à cela, tout à fait involontairement, mais que Dieu, que le Seigneur s'adresse à lui, ça par contre, ça vient, c'est pour lui une expérience absolument radicale. Et donc le prophète se retrouve être le médiateur, il se retrouve être celui par qui la parole du Seigneur va être transmise. Donc on imagine bien la responsabilité du prophète aussi, ça engage sa responsabilité, et puis ça engage son courage aussi. En parlant de courage, on avait parlé de Jérémie, peut-être la dernière fois, bah, Jérémie lui dit « mais je suis rien moi, je suis trop jeune, je suis trop incapable. » Puis souvenez-vous Jonas, ben Jonas lui par contre il prend la poutre d'escampette. Donc l'engagement, le courage, c'est aussi une des qualités des prophètes. Ils risquent leur vie en engageant cette parole-là du Seigneur. Donc la vision ne peut donner à elle seule la clé du message qu'ils reçoivent, du message du Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu accompagne toujours la vision. C'est elle qui est l'interprétation possible. Donc voyons notre point suivant, le point 1.3. Dieu se révèle à son peuple. En se révélant à son peuple par l'intermédiaire des prophètes, on vient de le voir, Dieu ne donne pas à la révélation un caractère confidentiel. Mais au contraire, il instaure, et on l'a vu tout au début, il instaure une révélation historique. J'ai commencé par vous dire que les prophètes étaient identifiés historiquement et que du coup, il y a bien une identification historique. Eh bien, il en va de même pour la révélation. Ce n'est pas une révélation confidentielle que le Seigneur fait uniquement à Abraham et uniquement pour lui. Puis Abraham, il peut continuer sa vie. Mais non, Abraham, il a déjà commencé par quitter sa famille, son peuple, sa terre, etc. Donc ça veut dire que pour Abraham, ça a une conséquence. Pour Moïse, ça a une conséquence. Et donc cette conséquence-là fait que la révélation, ben, elle n'est pas que pour eux. Elle n'est pas confidentielle. La révélation, elle est historique. Parce que c'est dans un temps de l'histoire et que ce temps de l'histoire, il va être comme dilaté dans l'histoire universelle. C'est pour ça que mon deuxième point, c'est sur le Nouveau Testament. Parce que cette révélation-là, elle n'est pas close avec l'Ancien Testament. Bien sûr que non, vous voyez. Donc les faits, ah oui j'avais mis d'abord, il ne faut pas que j'oublie, d'abord le texte 4, le texte d'Exode, Exode 14.30, pour illustrer cela. Le Seigneur en ce jour-là sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit l'Égypte morte sur le rivage de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et en Moïse, son serviteur. Ben vous voyez, ce verset nous dit quelque chose de l'histoire. Eh bien oui, le peuple qui construisait les pyramides en Égypte, les pyramides des pharaons, ben c'était le peuple hébreu. Donc ça, c'est historiquement identifiable. Ensuite, on nous dit... Ils ont été libérés par Moïse, voilà. Israël vit l'Égypte morte sur le rivage de la mer, et Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur agit contre l'Égypte. Ah. Voilà une action du Seigneur directe en faveur du peuple et en défaveur, c'est le moins qu'on puisse dire, des Égyptiens. Donc les faits ici vont donner du crédit aux paroles de Moïse. Vous voyez, par exemple, le peuple a suivi Moïse, il l'a suivi en foi, en sa parole, en lui disant ben, « le Seigneur m'a parlé, je vais vous libérer », etc. Mais le fait, les faits qui vont vraiment prouver que les paroles du Seigneur sont vraiment crédibles, parce qu'en fait c'est ça l'enjeu, et ben, c'est la libération et le passage de la mer morte, et puis le passage de la mer, et puis la mort des Égyptiens sur la mer qui se referme sur eux, par exemple. Capable d'écarter les eaux et puis ensuite de les faire refermer. Alors, il y a sûrement, je ne sais pas, enfin je ne suis pas bibliste, mais on voit bien, il y a sûrement un récit légendaire. On peut lire des choses dans les récits babyloniens antérieurs. Donc on voit bien qu'il y a une compréhension. Les hommes qui ont écrit, ils ont écrit avec la compréhension de leur époque, avec la culture qu'ils avaient des écrits précédents. Et donc la construction du récit, elle se fait de cette manière-là aussi. Donc il n'est pas étonnant, je vais prendre votre question, il n'est pas étonnant que l'on retrouve dans l'Ancien Testament des strates de récits babyloniens, par exemple Moïse sur les eaux, bon, voilà, ce petit enfant dans le couffin. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous, dans vos familles, nous on a un Moïse qui se transmet de génération en génération. C'est un panier en osier qu'on appelle un Moïse. Et voilà, et qui se transmet à chaque naissance.
Est-ce qu'on arrive à...
Voilà, je reprends après votre question. Mais l'identification après.
Ça, c'est pardon, le personnage de Moïse. C'est, historiquement, c'est pas. On n'en sait pas grand chose. Et même Abraham, et même.
On attribue à Moïse la rédaction du Deutéronome, mais vous voyez bien que Moïse n'est pas allé en terre promise. Il a conduit le peuple et il est mort juste avant le passage de la terre promise. C'est Josué qui est chargé de conduire le peuple ensuite sur cette terre nouvelle pour eux. Parce que cette terre nouvelle pour eux, c'est une terre qui est déjà habitée. Donc voilà. Alors, en tout cas, pour ce qui est de la lecture et de l'interprétation, pour ce peuple qui reçoit la révélation de Dieu, eh bien, ces faits-là, ils les vivent directement. Ils en sont témoins. Après que le récit ait été construit avec des connaissances antérieures sur des récits babyloniens, oui, ça c'est toujours possible. Mais vous voyez bien que l'essentiel du récit, c'est le fait qu'ils aient été esclaves à un moment donné et qu'ils sont maintenant libérés. Et c'est ça que le peuple retient. C'est que les paroles du Seigneur ne sont pas simplement des paroles en l'air ou des paroles destinées à être pour le prophète et à être dites, mais ce sont des paroles qui se transforment en actes. Et que ces actes-là sont des actes qui sauvent quand même. Donc ces faits vont témoigner que l'action de Dieu est destinée à ce peuple-là. Et que c'est destiné à des hommes, et donc tout un groupe d'hommes et de femmes, bien entendu, et que ce salut, ils en sont les premiers témoins, ils en sont les premiers récepteurs, je ne sais pas, en tout cas, ils sont les destinataires, voilà, je cherchais le mot, ils sont les destinataires de ce salut, mais que bien entendu, ce salut va s'étendre au-delà de ce peuple-là. Donc cette promesse et cette action de Dieu va faire naître la foi du peuple. Parce que le peuple, maintenant, a foi dans les paroles du Seigneur, parce qu'ils ont fait l'expérience que ces paroles ont été des actes qui les ont sauvés. Donc pour le peuple, ces paroles sont vraies et sont efficaces. Donc quand le Seigneur parle, c'est que le Seigneur a un projet pour ceux à qui il s'adresse. Ce ne sont pas des paroles qui seraient lettres mortes. Donc l'histoire du peuple d'Israël est ainsi fondée sur la parole et sur l'action du Seigneur. Mais dans l'Ancien Testament, l'action du Seigneur en leur faveur. Au-delà de l'histoire d'Israël, on verra avec le Nouveau Testament après, on comprendra, bien sûr, les hommes de cette époque, que le salut, il va au-delà du peuple d'Israël. Donc les faits témoignent que l'action de Dieu met en œuvre un projet qui va bien au-delà de l'Ancien Testament. Mais que ce projet, il a commencé par une promesse. C'est la première parole. Et que cette promesse, elle a fondé une alliance. C'est la première alliance. Dieu fait alliance avec son peuple. L'alliance, on ne peut la comprendre, enfin on ne peut la comprendre, en tout cas on la comprend en raison de la foi que le peuple met en le Seigneur. Sans la foi du peuple, l'alliance ne peut pas être conclue. Une alliance peut se conclure au nom de l'amour, de la fidélité, ou après vous mettez ce que vous voulez dans les valeurs, des valeurs fortes. Mais pour ce qui est du peuple d'Israël et du Seigneur, on peut parler d'alliance en raison même de la foi que le peuple a envers le Seigneur. Il lui parle, il lui fait une promesse, il réalise cette promesse, il le sauve de l'esclavage et il lui donne la terre. Alors oui, le Seigneur, la parole du Seigneur, elle est efficace. Donc le peuple, s'il a foi au Seigneur, alors l'alliance est possible. L'alliance entre le Seigneur et le peuple, c'est possible. Et c'est la première alliance. Donc ce projet, à partir de cette alliance, ce projet, il a une nature particulière. C'est ce qu'on voit là avec notre point 1.4. Donc avec les prophètes, on peut voir que depuis la lignée de David, en 2 Samuel, le deuxième livre de Samuel, et jusqu'au serviteur souffrant, jusqu'à Isaïe à peu près. Alors j'avais mis des références, vous irez voir, du coup j'ai pas pris ma Bible. 2 Samuel, chapitre 7, versets 4 à 10, jusqu'à la figure du serviteur souffrant, donc là on est plutôt dans le troisième Isaïe, hein, Isaïe 53, 12. Eh bien là, on a l'histoire d'Israël, l'histoire du salut voulu par Dieu, voulu par le Seigneur. Et donc la révélation, dans la révélation de Dieu, on découvre d'abord quelle est la nature du projet. D'abord, que veut Dieu ? Il veut sauver l'homme. Alors vous voyez, quand je dis l'homme au singulier, c'est l'humanité, enfin c'est l'homme avec un grand H, bien entendu. C'est l'homme de toutes les générations. Voilà, il veut sauver l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il est amour, il est radicalement amour, il est radicalement le don. Lorsque le Seigneur parle, il ne fait pas que s'adresser, il se donne aussi. On avait vu aussi, il dit qui il est, Exode 3.14, je suis qui je suis. C'est ça aussi, le don. Il ne fait pas que parler, il se donne totalement. Et donc dans la radicalité de ce que va signifier ce don, y compris dans l'Ancien Testament, avec la mort du Fils par exemple, l'acceptation de se donner au point de mourir sur une croix. C'est ça la dimension radicale de l'amour. C'est pas uniquement parler, c'est d'aller jusqu'au bout de la radicalité du don. Et cette radicalité du don, elle a commencé dans l'Ancien Testament. Et ensuite, je viens de le dire, l'identité, dire qui il est. Il dit qui il est. Exode 3.14. Donc là, on peut parler avec ces trois points, là, c'est sauver l'homme, parce qu'il est amour et il dit en plus qu'il est, il révèle son identité, eh bien on parle de dévoilement. Bien, on avait vu la fois dernière un peu l'articulation entre voilement, dévoilement, c'était un peu, ouais, c'était pas tellement aisé, mais on voit bien que cette manière de se dévoiler, qui demeure de toute façon un voilement, parce qu'on ne perce jamais le mystère de Dieu jusqu'au bout, et totalement en tout cas. Donc c'est pour ça qu'après, enfin, on parlera dans l'Ancien Testament, on va identifier des figures, la figure du roi, la figure du serviteur souffrant. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a du dévoilement et en même temps, il y a du voilement. Voilà, on va prêter à Jésus la figure du serviteur souffrant d'Isaïe 53. Voilà, on va parler en termes de figure. Enfin bon, ça c'est un peu anecdotique finalement. Cette idée de vie de figure, c'était pour vous introduire l'idée de la figure prophétique. Parce que du coup, tous ces prophètes qui ont existé historiquement identifiables, ils vont devenir, lorsqu'ils mourront, parce qu'ils vont mourir, bien entendu, les uns après les autres, eh bien, ce qui sera gardé, ce sera la figure prophétique. Vous voyez, c'est comme on garde des traditions. Voilà, de nos grands-mères, de nos grands-pères, enfin, voilà, ils ne sont plus là et pourtant perdurent, peut-être à notre insu, dans nos habitudes, quelque chose de leur figure, de la figure de leur manière de faire. Bien voilà, la figure prophétique. C'est celle qui va signifier qu'une relation entre le Seigneur et l'homme s'est noué à un moment donné, s'est créé dans l'Ancien Testament. Et c'est une relation totalement inédite. Bien sûr qu'elle est inédite. Alors, bien sûr, dans un dialogue de foi, pour celui qui ne croit pas, cette relation n'a pas d'épaisseur, de signification, mais ça n'a pas d'importance. Hein. L'idée, c'est toujours de dire à partir d'où on peut dire cela. Bien, dans la foi du peuple, bien sûr, c'est une relation inédite. Et toute l'expérience que le peuple de Dieu fait de la révélation, c'est une expérience fondamentale, parce que ça va bouleverser totalement leur manière d'être. Et donc aussi l'histoire, on parlait d'histoire avec un grand H, bien sûr que ça va bouleverser l'histoire, parce que du coup, cette histoire de la révélation, elle va s'insérer dans le temps humain, presque dans le temps chronologique. C'est-à-dire que pour ce peuple qui relit son histoire et qui l'écrit, qui la met en écrit longtemps après, bien longtemps après avoir essayé de comprendre, relu leur expérience, et qui ont mis par écrit, lorsque le peuple revient d'exil, ils n'ont pas tout de suite mis par écrit leur exil à Babylone. Le temps, il s'est passé du temps avant qu'ils mettent par écrit, parce qu'il faut le temps de la relecture, nous-mêmes un peu le temps de relire un petit peu les expériences. Eh bien, cette histoire universelle, cette histoire qui concernait un peuple particulier, vient entrer, donc l'histoire de Dieu, de son projet, vient entrer dans le temps humain et dans le temps chronologique. C'est-à-dire, si on reprend la Bible, que je n'ai pas ici, mais l'Exode, l'Alliance au Sinaï, la Terre promise, l'entrée du peuple dans la Terre promise, on voit bien les étapes de cette révélation mise en œuvre par le Seigneur grâce à Moïse, grâce aux prophètes. Donc tout ça, c'est dans un temps chronologique, ce n'est pas mélangé. Et donc ces événements qui sont des actes, vous voyez, du coup, on se dit, il y a comme une coïncidence entre les faits et les événements. Il y a les faits, la libération du peuple hébreu, libération de l'esclavage, c'est un fait historiquement réel. Mais pour ce peuple-là, c'est devenu un événement. Vous voyez ? La dimension d'événement. Je ne sais pas quel exemple je pourrais prendre, mais vous dire qu'un événement, ce n'est pas forcément un fait. Ou un fait, plus exactement un fait, ce n'est pas forcément un événement. Ça peut être un fait divers, il s'est passé telle chose, ça a concerné telle personne, c'est important pour elle, mais ce n'est pas devenu un événement, c'est-à-dire qui a bouleversé. Enfin, on a connu des événements qui ont bouleversé notre manière d'être, hein, depuis les premiers attentats, on a connu des choses qui on a eu un avant et un après, mais on voit bien que ces faits-là ont été pour nous tous un événement, parce que ça a modifié notre manière de nous comporter, notre manière d'être, peut-être même notre manière de penser. Bien, pour le peuple, c'est ça, en fait. C'est un événement pour eux, qui est un événement fondateur. Donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui on doit tenir en grande considération l'Ancien Testament. C'est-à-dire que on ne doit pas considérer l'Ancien Testament comme étant caduque ou tellement ancien que finalement l'histoire de ce peuple-là ne nous concernerait pas. Voilà, ce serait une erreur, bien entendu. Parce que le Nouveau Testament est pétri d'Ancien Testament, parce que ceux qui écrivent avaient une connaissance absolument presque innée, parce qu'ils connaissaient l'Ancien Testament. Ils étaient juifs, donc ils connaissaient l'Écriture. Donc on doit toujours tenir en grande considération l'Ancien Testament. Et quand dans vos Bibles, vous avez dans vos marges des annotations qui vous renvoient à l'Ancien Testament, ben allez voir, voilà. prenez votre ancien, votre Bible, votre Ancien Testament, et allez voir pour regarder quelle est. Parce que celui qui écrit, en faisant cela, il dit d'où il parle. Vous voyez, il dit d'où il écrit. Et ça, c'est important. Je regarde l'heure en même temps. Donc une révélation qui était voilée dans l'Ancien Testament, eh bien, ne le sera plus lors de la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Et on se retrouve à nouveau avec une articulation entre dévoilement, voilement et dévoilement. C'est pas grave si ça, si c'est encore un peu obscur, vous embêtez pas avec ça, hein ? Voilà. Parce que l'incarnation du Verbe, la venue de Jésus-Christ, eh bien, va marquer la continuité de la révélation. C'est pour ça que je vous disais, avec l'Ancien Testament, la révélation, elle n'est pas close. Bien sûr que non. Le Seigneur continue de se révéler, et d'une manière différente, parce que là, il va se révéler en personne, et par la personne du Fils, dans la personne de Jésus-Christ. Si je vous parlais de dévoilement, c'est parce que Jésus-Christ vient comme déchirer le voile. Voilà, on est voilà, comme s'il y avait un voile. Et Jésus-Christ vient déchirer cela. Et bien sûr, ça fait écho au voile qui se déchire au moment de sa mort, le voile du Sanhédrin qui se déchire. Donc il y a une révélation qui se fait. Il y a une rupture, il y a une déchirure qui se fait avec le Christ. Donc il y a une continuité de l'alliance, mais ce n'est pas la même alliance. Ce n'est pas la même alliance. Alors pour comprendre, je vous ai mis le texte de la Constitution dogmatique Vatican II, la Constitution Dei Verbum, hein, sur la révélation, le chapitre 4, qui nous explique bien les choses en fait, qui articule très très bien cette économie-là et la manière de comprendre cette économie. D'ailleurs, ça commence par ce terme-là. L'économie de l'Ancien Testament avait pour raison d'être majeure de préparer l'avènement du Christ Sauveur de tous et de son royaume messianique, d'annoncer prophétiquement cet avènement et de le signifier par diverses figures. Compte tenu de la situation humaine qui précède le salut instauré par le Christ, les livres de l'Ancien Testament permettent à tous de connaître qui est Dieu et qui est l'homme, non moins que la manière dont Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, agit envers les hommes. Ces livres, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduc, sont pourtant les témoins d'une véritable pédagogie divine. C'est pourquoi les fidèles du Christ doivent les accepter avec vénération. En eux s'exprime un vif sens de Dieu. En eux se trouvent de sublimes enseignements sur Dieu, une sagesse salutaire au sujet de la vie humaine, d'admirables trésors de prière. En eux, enfin, se tient caché le mystère de notre salut. Vous voyez, ces textes sont vraiment, je vous engage à lire Dei Verbum, c'est tout petit comme un livre, hein. Ça fait quelques pages, mais ce sont des textes magnifiques, qui non seulement sont magnifiques, mais en plus mettent en œuvre une pédagogie théologique qui nous permette de comprendre. Vous voyez, dans ce texte-là, théoriquement, on a tout, on nous dit que la révélation, elle est encore voilée, mais on voit bien que elle est cachée, mais que le mystère de notre salut est en marche depuis l'Ancien Testament, et que comme il est en marche, il a entré dans un processus économique, et que même si les livres de l'Ancien Testament, ben, il y a de l'imparfait, ben oui, il y a de l'imparfait, ils ont été écrits par des hommes, donc avec les limites de leur vocabulaire, de leur mise en œuvre, et qu'il y a même du caduc, parce que ce qui se dit n'est plus actuel. Ben, il n'empêche que ce livre-là dise quelque chose de l'action de Dieu pour eux dans une véritable pédagogie divine. Donc il nous faut tenir le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ce que font les pères conciliaires dans ce texte-là. C'est pourquoi les fidèles du Christ doivent les accepter avec vénération. Donc ce lien est nécessaire pour l'identité même du christianisme, en fait. Un christianisme qui ne serait uniquement axé sur le Nouveau Testament, ce serait quelque chose de différent, on va dire. Ça veut dire qu'il oublie tout un pan originaire de la révélation. C'est aussi nécessaire pour comprendre la venue de Dieu en la personne du Fils, comprendre l'incarnation. Et si on ne comprend pas l'incarnation, alors on ne comprend pas la Trinité. Donc c'est accompli, cette révélation, elle s'est accomplie en premier pour le peuple élu, et elle se poursuit dans le Nouveau Testament avec l'incarnation du Verbe, Jésus, Fils de Dieu. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que l'Ancien Testament préfigure le Nouveau Testament. Et s'il prépare le Nouveau Testament, alors le Nouveau Testament ne peut pas faire l'économie de l'Ancien. Ce qui est accompli dans le Nouveau est annoncé dans l'Ancien. Donc le lien, il est indéfectible. Ça veut dire que l'histoire du salut, elle est unique en fait. Il n'y a pas une histoire du salut dans l'Ancien et une histoire du salut dans le Nouveau Testament. Il y a une unicité de l'histoire du salut. Donc l'histoire du salut commence par une élection dans l'Ancien Testament qui va révéler pleinement l'identité chrétienne dans le Nouveau Testament. Alors, je ne sais pas si je finis mon point avant la pause. En même temps, il reste que quelques mots. Et je dirais cela. L'enjeu, c'est de ne pas séparer les livres. On ne les sépare pas. La Bible elle-même est une bibliothèque reliée, dit Paul Beauchamp, par là. C'est la reliure qui vient faire le lien. Donc, on ne sépare pas les livres. Parce que la lecture de l'un vient éclairer la compréhension de l'autre. Qu'il n'y a pas deux histoires de salut et deux économies. Il y a une unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament et que Dieu est l'unique inspirateur. Ça, c'est Dei Verbum, paragraphe 16. Et donc, il existe entre l'Ancien et le Nouveau Testament un mouvement d'aller et retour de l'un vers l'autre, une réciprocité. Et donc l'incarnation, on pourrait dire, qu'elle vient marquer la continuité de la révélation du Père qui s'est manifestée dans l'Ancien par sa parole et dans le Nouveau Testament, il se révèle lui-même en personne, en la personne de Jésus-Christ. Voilà, et puis je vous avais dit, donc c'est ainsi que l'on comprend la manifestation, la révélation trinitaire, que l'on comprend que la révélation est trinitaire. Voilà, on va faire une pause. Vous devez être... Je vais reprendre un petit peu. La foi d'aujourd'hui du Nouveau Testament, elle s'inscrit dans une foi qui nous précède. Et que de reconnaître que la foi, que celui qui est notre père dans la foi, c'est Abraham, c'est cet homme-là qui remonte à 18 siècles, je ne sais pas, avant Jésus-Christ, c'est de dire, ça veut dire qu'il y a eu une démarche de foi à un moment donné de l'histoire, dans un lieu de l'histoire, dans ce moyen, dans cette géographie orientale, qui continue, qui perdure jusqu'à aujourd'hui, après le passage de l'incarnation du Fils. C'est-à-dire que la foi ne commence pas avec Jésus-Christ, elle avait déjà commencé avant. C'est pour ça que la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, elle est nécessaire, fondamentale, incontournable. Après que l'Ancien Testament, que vous ne soyez pas sensible à l'Ancien Testament et qu'il ne soit pas nécessaire à votre foi, Bah ça, bien sûr, on l'entend bien, ou à notre foi pour parler pour tout le monde. Mais d'en prendre connaissance.
On a quand même un peu besoin pour bien comprendre les textes du Nouveau Testament.
Oui, c'est cela.
Les références sont nombreuses.
Oui, les références sont nombreuses.
C'est une façon d'avoir une lecture un peu intelligente. Peut-être que ça peut aider à...
Oui, puis c'est une manière...
Justement, parce qu'on comprend mieux.
Oui, et puis c'est une manière d'honorer les auteurs qui ont écrit le Nouveau Testament et qui font référence très largement de l'Ancien Testament. Comment ?
Ils ne connaissaient que ça.
Ben oui.
Ils n'avaient que cette référence.
Voilà. Mais voyez, en faisant ces références-là, on voit bien qu'il y a une connivence très forte du nouveau avec l'ancien et vice-versa. Et qu'en raison même de cette connivence, on ne peut pas en faire l'économie. Parce que les choses, elles ont commencé bien avant nous quand même. Alors du coup, on arrive... Merci beaucoup pour vos questions, tout à fait pertinentes et très, très éclairantes aussi. Donc ce point 2, le Nouveau Testament. Donc dans le Nouveau Testament, on l'a dit plusieurs fois et je ne vous apprends rien, Dieu parle, il continue de parler, mais il parle par et en son Fils Jésus-Christ et c'est par lui qu'il se révèle. Donc Dieu qui parle, le Seigneur qui parlait dans l'Ancien Testament, maintenant, il va être Dieu au milieu du peuple. Et donc le texte 6, pris dans le texte des Hébreux, chapitre 1, verset 1, « Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un fils qu'il a établi héritier de toutes choses. » Donc à maintes reprises et sous maintes formes. Donc vous voyez les formes aussi de rédaction, de mise en œuvre sont variées. Mais voilà, ces jours sont considérés comme les derniers. Et bien maintenant, le Dieu parle par un fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc là, il y a un renversement, un bouleversement total de la révélation. Parce que lorsque Jésus parle de Dieu, donc il parle de son Père, il ne parle pas d'un autre Dieu que celui qui s'est révélé dans l'Ancien Testament. Et de celui qui a parlé par les prophètes. Et Dieu n'est pas moins Dieu parce qu'il s'est incarné. Dieu demeure celui qu'il est, et qu'il est pour toujours et de toujours. Alors voilà le chapitre 17 de la Constitution dogmatique, Dei Verbum toujours, sur le Nouveau Testament. La parole de Dieu, qui est une force divine pour le salut de tout croyant, se présente dans les écrits du Nouveau Testament et sa puissance s'y manifeste de façon singulière. Dès que fut venue, en effet, la plénitude des temps, le Verbe de Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Le Christ a instauré le règne de Dieu sur terre par ses gestes et ses paroles. Il a révélé et son Père et lui-même, par sa mort, sa résurrection, son ascension glorieuse et par l'envoi de l'Esprit Saint, il a parachevé son œuvre. Élevé de terre, il attire à lui tous les hommes, lui qui seul possède les paroles de la vie éternelle. Mais ce mystère n'a pas été dévoilé aux autres générations comme il l'a été désormais dans l'Esprit Saint à ses saints apôtres et prophètes, afin qu'ils proclament l'Évangile, qu'ils suscitent la foi en Jésus, Christ et Seigneur, et qu'ils rassemblent son Église. De ces réalités, les écrits du Nouveau Testament présentent un témoignage permanent et divin. Donc, ce chapitre 17, encore une fois, met en œuvre une pédagogie qui nous dit d'abord que la parole de Dieu, eh bien, elle est première, et que cette parole-là, eh bien, elle est bien différente de la parole des hommes, parce qu'elle a une force divine. La parole de Dieu qui est une force divine. Donc, ce n'est pas la même chose que la parole d'un homme. Et que la force de la parole de Dieu, eh bien, elle va se manifester dans l'incarnation du Verbe. Voilà. C'est le Verbe, la parole faite chair. Donc, non seulement la parole, c'est une force divine, mais que cette force, elle s'incarne. Elle s'incarne dans le Fils. Et que fait le Fils dans ce projet de Dieu, du Père ? Il va instaurer le règne de Dieu sur terre. Et à nouveau, par ses paroles, les paroles de Jésus-Christ maintenant, les paroles de Jésus, son enseignement, ses miracles, qui sont le témoignage de la puissance de Dieu à l'œuvre sur terre. Bien sûr, celui qui est guéri, ça le concerne personnellement, parce qu'il est guéri dans son corps ou dans son esprit. Mais bien au-delà de cela, cela signifie que l'œuvre de salut du Père est en marche et est à l'œuvre aujourd'hui, pour l'aujourd'hui du Christ et de celui qui est guéri. Et donc le Christ instaure le règne de Dieu sur terre, donc par ses paroles, par ses gestes, son enseignement, ses miracles, par la mort et la résurrection, et par l'envoi de l'Esprit Saint. Et c'est ainsi que l'œuvre du Père et du Fils, dans la force de l'Esprit qui leur est commun, que l'œuvre du Père est parachevée. Donc cette révélation, elle est totale et elle est trinitaire. On ne comprend la Trinité qu'à partir de l'incarnation. Donc la manifestation est totale et trinitaire, et elle se donne à voir dans l'Église fondée par les apôtres. Et c'est sur eux que repose la fondation de l'Église, la proclamation, le témoignage.
Pourquoi vous parlez de trinitaire ?
Merci pour vos questions. Alors, dans ce texte-là, vous pouvez surligner, parce qu'on peut, faire deux groupes d'action. D'abord, ce qui concerne Jésus directement, que nous disent les pères conciliaires dans ce texte-là. Ils nous disent, Jésus, il a instauré le règne de Dieu, il a révélé son Père, il a envoyé l'Esprit Saint et il a parachevé l'œuvre de Dieu. Il instaure, il révèle, il envoie, il parachève. Voilà sa mission, son action. Et puis ça a des conséquences pour les apôtres qui ont suivi Jésus. Quelles sont les conséquences pour eux ? Eux, ils doivent proclamer l'Évangile. Ils proclament l'Évangile, ils doivent susciter la foi, ils doivent rassembler l'Église. Donc ils proclament, ils suscitent, ils rassemblent. Et puis, il y a les écrits des auteurs sacrés qui vont présenter un témoignage. Tous n'ont pas écrit, mais certains ont écrit et présentent un témoignage qui est un témoignage permanent et divin. Donc ces deux groupes de verbes, vous voyez, montrent la répartition de la mission. La mission de Jésus et la mission des apôtres qui leur incombe après la mort et la résurrection de Jésus. Donc les apôtres qui ont été choisis par le Christ, c'est à eux que revient de mettre par écrit le récit, et là je vais dire le récit de l'événement Jésus-Christ, qui est aussi un fait. « Donc le Nouveau Testament va témoigner de l'achèvement de la révélation en Jésus-Christ. Mais de cette révélation qui commençait dans l'Ancien Testament. Donc voyons cette révélation dans la personne même de Jésus. C'est notre point 2.1. Les deux événements... Oh, du coup, j'hésite.
Non, mais une fois que c'est bien.
Les deux événements que constituent l'incarnation, puis la mort et la résurrection de Jésus, révèlent le contenu de la promesse de salut. Et donc, promesse de salut... C'était la promesse dans l'Ancien Testament, mais on voit bien, enfin, Karl Barth, qui est un grand théologien allemand, théologien protestant, Karl Barth, un théologien allemand, qui est né en 1886 et qui a dû mourir, vous vérifierez, mais je crois qu'il est mort en 1968. Voilà. Lui, il dit, très justement, il dit que l'incarnation est d'abord un événement de rédemption. Vous voyez, c'est pas simplement... En tout cas, l'incarnation, ce n'est pas uniquement l'incarnation du Fils, du Verbe fait chair, mais c'est un événement de salut, c'est un événement, c'est déjà la rédemption, enfin déjà, vous voyez bien, c'est un événement, c'est une œuvre de rédemption, voilà, c'est cela qu'il dit, pas Karl Barth, exactement. La rédemption est œuvre, l'incarnation, pardon, est œuvre de rédemption. Donc on voit bien qu'il y a une continuité dans le salut. Donc à ces événements, à cet événement d'incarnation, eh bien, vont se poursuivre, vont s'énoncer tous les enseignements de Jésus qui ont cette valeur de nouveauté radicale. Parce que si l'incarnation du Fils est un événement tout à fait nouveau et radicalement fondateur, il n'empêche que l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire les paroles que Jésus va dire dans le milieu où il vit, vont être des paroles totalement inédites. Et c'est pour cela que ces paroles-là ne seront pas reçues. Hein, et que... Donc Jésus, on va dire qu'il ne voile pas ses paroles, c'est-à-dire qu'il ne va pas... Il ne va pas aménager son discours selon les personnes à qui il s'adresse. Vous voyez ? Il ne va pas être dans le politiquement correct, pour le dire autrement. Ça veut dire que ce qu'il dira, il le dira avec autorité, parce que cette autorité, il la tient du Père, mais de fait, sa parole d'autorité ne va pas plaire à tout le monde. Et en premier ne va pas plaire aux autorités religieuses. Donc on voit bien que l'enseignement que Jésus donne, c'est un enseignement totalement inédit, qui n'était pas connu à l'époque. Et en même temps, il est capable de voiler ses paroles, de parler en parabole, donc à partir de choses que les gens connaissent, parce que ça va être des figures agraires, ou les saisons, donc des choses qui parlent aux gens. Mais cela va être aussi une manière de voiler son enseignement. Il me semble qu'on en a parlé un peu la fois dernière, c'est-à-dire qu'à certains, à ses apôtres, à ses disciples, il va expliquer la parabole. Ça veut dire qu'il ne voile pas, il ne dévoile pas tout à tout le monde. Donc le fait qu'il dévoile à ses apôtres nous dit qu'il y a là aussi une élection, comme dans l'Ancien Testament, une tradition de choix. Une tradition d'élection que, à certains, on va dire les choses, on va mettre en œuvre une pédagogie. Parce que ceux-là, ils sont appelés à témoigner, comme les prophètes. Ils sont appelés à témoigner, et puis ils vont être en plus appelés à porter un témoignage de foi sur la mort et la résurrection du Christ, et donc à prendre en charge la mission de Jésus mort et ressuscité après le don de l'Esprit à la Pentecôte et de fonder l'Église. Donc ils ont une mission, ça va engager leur vie et ça va engager leur mort aussi. Hein. La manière dont ils mourront sera aussi engagée. Donc on voit bien que Jésus parle avec autorité, de manière voilée et de manière tout à fait pédagogique. Le texte 8, Marc 4, chapitre 4, verset 11, et il leur disait « À vous le mystère du règne de Dieu est donné, mais pour ceux du dehors, tout devient énigme. » Et en même temps, on peut lire aussi ben, « Rien de voilé qui ne doivent être dévoilés, rien de caché qui ne doivent être connus. » Donc quand Jésus dévoile les choses, il les dévoile totalement. Quand Jésus annonce par trois fois sa passion, sa mort et sa résurrection, il ne cache pas les choses, il les dit ouvertement. Elles ne sont pas reçues, elles ne sont pas comprises, ou elles sont rejetées par Pierre au point que Jésus lui dit « arrière Satan ». Voilà, mais Jésus dit les choses, il ne cache rien. Donc Jésus a une manière très singulière de vivre. C'est quand même étonnant, on pourrait se dire, parce que l'enseignement, la vie publique de Jésus, elle commence tardivement. On dit qu'elle commence vers l'âge de 3 ans avant sa mort. Donc si on dit qu'elle commence vers 30 ans, ça veut dire que Jésus, il était connu de là où il vivait. Il était identifié, d'ailleurs il y a des pages, mais ce n'est pas le fils de Marie, eh bien voilà, fils de Marie, de Joseph, le charpentier, donc il était connu ce Jésus-là. Et voilà qu'à un moment donné, ce Jésus qui était connu, peut-être insignifiant, je n'en sais rien, eh bien voilà que se révèle une parole en lui d'autorité, dans la synagogue. Il explique les évangiles, il lit Isaïe. « Aujourd'hui, cette parole, pour vous qui l'écoutez, elle est accomplie, leur dit-il. » Et que tout le monde se demande qui est-il, en fait, finalement. Donc, on voit bien qu'il y a une révélation qui se joue aussi en la personne même de Jésus. Donc, sa manière d'être si singulière par rapport à ce qu'il était quand il était connu avant sa vie publique, nous l'oublions pas, vie publique qui commence par le baptême, par Jean-Baptiste. Il reçoit l'Esprit Saint du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà comment commence l'enseignement, la vie publique de Jésus. Et on nous dit, c'est une colombe qui descendait, voilà, l'Esprit Saint qui est personnifié par une colombe. Voilà la vie publique de Jésus. À partir de ce moment-là, on pourrait dire, ce Jésus de Nazareth n'est plus vraiment le Jésus de Nazareth, il est déjà le Jésus-Christ. Il est déjà en lui-même, ce Jésus-là, qui va aller jusqu'à la croix, qui va mourir sur la croix et ressusciter. Donc son enseignement est un enseignement, une parole qui n'a jamais été entendue auparavant, inédite. Il donne des signes, qui sont aussi des miracles. Et je vous ai dit, les miracles sont des signes de la présence de Dieu. Il va éprouver de la pitié, il va éprouver de la compassion. Jésus pleure à la mort de Lazare, il est touché par la peine des autres. Enfin, on a des témoignages dans l'Évangile de cela. Et donc, on peut dire qu'il est en lui-même le salut qu'il annonce. Quand la femme hémorroïse dit « Ah, mais si je touche le bas de son manteau, je serai sauvée », c'est pas d'avoir touché le bas de son manteau qui l'a sauvé. Et Jésus dit, il sent une force en lui qui part. C'est qu'il est lui-même le salut. Il est lui-même en lui-même, dans sa personne même corporelle. C'est pas une présence éthérée. C'est l'incarnation du salut qui est directement là. Et Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Si je touche à peine la frange de son manteau, je serai sauvé. On voit bien que de fait, il y a une foi qui est une force de la foi qui est associée à cela. Donc, tout cela pour vous dire que l'évangéliste Jean est celui qui a clairement identifié ce que Jésus était en lui-même et par lui-même. Qu'il était le salut et qu'il était le chemin vers le salut. Parce que lorsque Jésus sauve, c'est-à-dire dans les miracles, lorsqu'il soigne, en fait, hein, lorsqu'il guérit, il montre qu'il est le parfait médiateur. Bien sûr que c'est lui qui guérit, mais c'est aussi celui qui sauve, mais pour aller vers le Père et pour avoir ce salut total et accompli, il faut passer par Jésus. Et donc celui qui a le mieux identifié la dimension de médiation, ben c'est Jean. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et vous voyez, on retrouve ce « je suis » qui fait écho à Exode 3,14. Cette révélation d'identité. Et c'est notre texte 9 du prochain point. Je ne sais pas si je vais arriver à la fin de mon cours. On va regarder l'égoïmie. Donc c'est « je suis ». Et donc si on extrait de l'évangile de Jean tous les « je suis », « je suis le pain de vie », »,« je suis la lumière du monde », »,« je suis la porte des brebis », »,« je suis le bon berger », »,« je suis la résurrection et la vie », »,« je suis le maître », »,« je suis le chemin, la vérité et la vie », je suis la vraie vigne et je suis la vigne. Eh bien, ce que l'on a au centre, c'est la résurrection. Et ce que l'on a en premier et en dernier, je suis le pain, je suis la vigne. Et donc, moi, je ne vous dirai pas que l'organisation est une organisation consciente, que Jean a écrit parce qu'il a voulu ordonnancer comme cela, parce que ça n'aurait pas de sens. Mais on peut remarquer que l'ordonnancement est un ordonnancement presque sacramentel, eucharistique. Le pain donné, le sang versé, et au centre, la résurrection. C'est la résurrection qui nous sauve. Bien sûr que la résurrection vient après la croix, mais on voit bien que ce n'est pas la souffrance de la croix qui sauve, parce que la souffrance, comme dit un théologien, la souffrance n'a jamais sauvé personne. C'est la résurrection qui sauve. Et on voit bien que dans cet ordonnancement des égoïmies, on a un ordonnancement liturgique, eucharistique. Dans le texte 10, Jean, on peut lire, en 14, verset 6, « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Voilà. Ça, c'est extraordinaire hein, de lire ça quand même. C'est-à-dire que Jésus dit à ceux à qui il parle, « Je ne vous montre pas quelqu'un d'autre que Dieu le Père. » Voilà. C'est pas... Dieu, lorsqu'il s'incarne, il n'y a pas une perte en lui. Il demeure ce qu'il est, pour toujours. Ce qui permet à Pierre de professer « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc parler avec autorité ne signifie pas autoritarisme, hein, vous l'avez compris. Mais ça veut dire que lorsque Jésus parle avec autorité, ça veut dire qu'il y a une puissance, une force dans ses paroles. Parole inédite, on l'a dit, mais une force qui fait que celui ou celle qui l'écoute ou qui l'entend est bouleversé. La Samaritaine au puits, elle ne comprend pas bien de quelle eau il s'agit. Hein, on a presque une pièce de théâtre hein, dans cette... presque un dialogue de sourds, elle ne comprend pas de quelle eau il s'agit, mais quand elle comprend... Elle peut dire, ah ben cet homme-là, il m'a expliqué tout ce que j'étais avant, voilà, des choses qui la concernent. Il m'a expliqué, il m'a dit tout ce qui me concernait. Donc une révélation. C'est-à-dire qu'il y a une révélation, non seulement elle voit en Jésus, ben, ne serait-il pas celui que les Juifs attendent, il y a une révélation à elle-même, parce que Jésus l'a révélée à elle-même aussi. Donc les miracles, je vous en ai déjà parlé. Donc je ne vais peut-être pas reprendre le point, je vous ai dit des choses. Peut-être vous citer ce texte 11 là, sur Henri Bouillard. Hein. Henri Bouillard qui était un théologien jésuite et qui était professeur de théologie fondamentale à l'Institut catholique de Paris. Et qui dit « Le miracle est au-dessus des lois, non pas en ce sens qu'il y contredirait ou leur serait entièrement étranger, mais en ce sens qu'il les utilise. » Vous voyez, il utilise les lois. Le miracle, il n'est pas en dehors des lois divines. Donc dans la vie publique de Jésus, Jésus fait des miracles qui sont la présence de Dieu et du règne de Dieu sur terre. Parcourant la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. Ça, c'est des textes suivants. Le texte de Marc. Alors peut-être qu'on peut lire le texte de Marc. Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement, « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. » Donc vous voyez, il y a des choses qui frappent les esprits. Hein, le « que nous veux-tu »,« je sais qui tu es le Saint de Dieu ». On est dans l'évangile de Marc hein, quand même. Hein. Donc l'idée qu'on va révéler le Messie, en même temps on dit que Marc c'est l'évangile du secret messianique, il ne faut pas dire et tout. En fait, Marc, il révèle tout de suite, hein, quand il dit « Évangile de Jésus-Christ », voilà, il révèle d'emblée hein, qui est le Christ. Ou alors, « Or un jour, il était en train d'enseigner, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem, et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. » Vous voyez, en plus, là, dans ce texte-là, la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Encore là, l'idée de médiation. C'est-à-dire que ce que fait Jésus, il le fait au nom du Père, et pas... Il le fait au nom du Père. Cela signifie aussi que les gestes que Jésus fait et les paroles qu'il prononce, elles sont efficaces. Immédiatement efficaces, on dirait qu'elles sont performatives. Et donc, ceux qui sont témoins de ces paroles et de ces miracles, eh bien, forcément, voient dans les paroles de Jésus une autorité et les paroles ont du crédit auprès de la foule, comme les paroles des prophètes avaient du crédit. Quand le peuple était sauvé, bah, du coup, les paroles du Seigneur avaient du crédit, puisqu'il se passait quelque chose qui avait... un effet positif pour eux. Et il en va de même pour au temps de Jésus. Mais bon, on voit bien que les miracles qui étaient faits quand même publiquement avaient des conséquences néfastes pour Jésus. Parce que les miracles qu'il faisait, elles étaient faites dans le milieu où il vivait et on n'oublie pas qu'on est en contexte d'occupation romaine. Et que, de fait, guérir ou avoir des gestes et des paroles qui sont associés à la... Jésus est juif, donc à la religion juive, qui créent des troubles, parce que, bien entendu, lorsqu'il guérissait le jour du sabbat, ça ne plaisait pas, bien entendu, aux docteurs de la loi, aux scribes et aux gens du Sanhédrin. Donc, forcément, Jésus était mal vu à la fois des autorités religieuses et à la fois des autorités romaines. Donc, vous voyez, Jésus, du coup, avait une visibilité publique qui était à la fois un homme qui guérissait, qu'on suivait, qu'on écoutait, dont on se faisait son disciple, et en même temps quelqu'un qui était à craindre, même considéré comme dangereux par les autorités juives, et peut-être même aussi dangereuse pour l'autorité romaine, parce que ça créait du désordre, forcément. Et les Romains ont une horreur, une sainte horreur du désordre. Donc, les mouvements de foule, les choses comme ça, ça ne pouvait pas... Donc, c'était... On reconnaît là que les miracles étaient opérés, mais que tout se met en œuvre petit à petit vers une détestation de la personne de Jésus, une haine de la personne de Jésus. Paul Beauchamp écrit, c'est notre texte 15, il écrit « À noter que Jésus n'opère aucun miracle pour se protéger de la mort et que sur le plan de l'agir, il ne fait rien si ce n'est des miracles. Toutefois, les miracles des pains échappent à la série. Une foule en bénéficie, qui pourrait donner à Jésus un pouvoir politique. » Vous voyez ? Le fait de nourrir une foule affamée, ça pourrait lui donner un pouvoir politique. Hein, il y a des révolutions qui sont faites au nom de la faim, hein, voilà, le peuple a faim, voilà, et on décapite au nom de la faim. Et bien là, Paul Beauchamp dit très justement qu'il pourrait lui donner un pouvoir politique. Donc vous voyez bien, c'est Jésus, il ne va pas aménager son enseignement. Il fait des miracles, ici, il doit faire des miracles le jour du sabbat, ben il fait des miracles le jour du sabbat. Donc ça ne plaît pas aux autorités religieuses. Puis nourrir la foule qui a faim, ben ça pourrait lui nuire, parce que ça, du coup, en lui donnant une autorité politique, ça pourrait lui nuire aussi. Ben de fait, ça lui a nuit. Mais vous voyez. Donc, Jésus ne va pas chercher à être populaire. Sa popularité, il ne la cherche pas. Il n'en veut pas. Ce n'est pas ça qui le meut, ce n'est pas ça. Il met en œuvre la mission qu'il a reçue du Père, quoi qu'il arrive en fait. Même si ça l'amène à une arrestation et à une condamnation, parce que c'est ça en fait hein, qui va arriver. Et Jean va faire la comparaison entre la manne et le pain. C'est notre texte 16, Jean 6, versets 31-33. « Au désert, nos pères ont mangé la manne, ainsi qu'il est écrit, et il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel. Mais Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Donc vous voyez, dans l'Ancien Testament, on avait la manne, et dans le Nouveau Testament, on a la multiplication des pains. Mais ce n'est ni la manne, ni la multiplication des pains qui est le vrai pain. C'est Jésus en son corps lui-même qui est la vraie nourriture. Donc, en conclusion, on pourrait dire que lorsque Jésus guérit et qu'il fait des miracles, il les fait toujours au nom de son Père. Mais il les fait avec la puissance de Dieu, avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit, c'est l'Esprit qui leur est commun. Ce n'est pas un autre Esprit. Donc Jésus agit toujours au nom de son Père. On a aussi souligné la dimension trinitaire du miracle. Parce que si Jésus guérit au nom de son Père, avec la puissance de l'Esprit, alors on est bien dans une articulation trinitaire. Le Fils guérit au nom du Père, avec la puissance de l'Esprit. Donc Jésus est le révélateur et en même temps le révélé. Il est le messager et en même temps le contenu du message. Il est l'auteur, l'objet, le centre et le sommet de la révélation. L'auteur, l'objet, le centre, le sommet de la révélation. Qui me voit, voit le Père, dit Jean 14, verset 9. C'est pourquoi la révélation n'est pas quelque chose d'abstrait. En Jésus, elle a pris corps dans l'histoire du salut, du coup on précise, hein, dans l'histoire du salut. Et que la révélation, c'est la personne de Jésus. Que sa vie, sa mort et sa résurrection donnent un sens à l'histoire de l'humanité qui croit en lui. Alors bien sûr, c'est un sens de l'humanité pour toute l'humanité, mais d'abord un sens pour la partie de l'humanité qui croit que Jésus est mort et ressuscité et qu'en ressuscitant, il nous sauve de la mort. Non pas que nous ne mourrons pas, parce qu'on sait très bien que nous mourrons, mais il nous sauve de cette mort qui n'a pas de sens, de ce néant, de cet anéantissement. Et il nous sauve de ce... Alors, évidemment, on va parler de péché, parce que c'est... Voilà, le péché étant associé à la mort, et la mort étant associée au péché. Donc sa mort, à lui, vient nous libérer de cela. Nous ne sommes pas morts au péché. Mais nous mourrons en Christ, d'abord, et nous vivrons en Christ. Donc l'auto-manifestation de Dieu, qui s'est réalisée par la parole qui est adressée aux hommes de l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et l'auto-donation, hein, vous voyez bien, auto-manifestation dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle par lui-même et de lui-même, et l'auto-donation de Dieu, qui se réalise en la personne de son Fils Jésus-Christ, et qu'il donne sa personne en lui-même, et qu'il ne donne pas autre chose que celle-ci dans le Nouveau Testament, eh bien cette auto-manifestation et cette auto-donation, eh bien dès lors, montre la continuité qu'il y a dans la révélation, attestée par la première et la seconde alliance, et la nouvelle alliance, et que cette attestation montre qu'elle porte en elle-même le témoignage et l'expérience de tout un peuple et l'expérience de toute une génération du Nouveau Testament. C'est l'expérience du Dieu unique, voilà, depuis Abraham. C'est l'expérience du salut, parce que si Dieu aime et si Dieu sauve, c'est parce qu'il aime. L'expérience de la libération. S'il aime... Et s'il sauve, et s'il se donne, alors c'est qu'il y a un don de grâce, et c'est l'expérience de la foi, parce que la foi aussi est une grâce, et c'est une expérience de résurrection qui est pour tous, pas simplement pour lui. Bien sûr que lorsque le Fils ressuscite, la résurrection concerne d'abord le Fils, elle est pour lui, mais c'est une résurrection pour tous les hommes, et bien sûr toutes les femmes et tout le monde, voilà, c'est une résurrection pour tous. Donc ce n'est pas une résurrection confidentielle, c'est une résurrection pour tous. Donc les Écritures attestent la révélation comme une expérience réelle et effective de la présence et de l'action de Dieu dans l'histoire des hommes, et puis aujourd'hui pour celui qui croit dans notre vie. Et si la révélation a trouvé son achèvement et son accomplissement en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, elle continue pour nous dans et par l'Église. Parce que bien sûr que c'est aussi en Église que nous confessons que le Christ est mort et ressuscité. Cela implique que la révélation éclaire pour nous aujourd'hui la présence de Dieu avec nous et parmi nous, d'une manière autre, que cette révélation, ben, nous l'accueillons dans la foi, et puis on accepte que cette foi nous précède, Et puis qu'en même temps, cette foi, elle est à construire. On en fait l'expérience tout le temps. Enfin, il faut tout le temps dire oui, en fait. Cette foi, elle est pas, on ne l'a pas acquise une fois pour toutes. Elle peut être mise à mal par des épreuves, par des deuils. Donc, voilà, elle est à construire. Mais elle est à construire avec ce que nous sommes, avec notre propre histoire, que nous construisons notre foi, à condition, bien sûr, qu'elle s'inscrive dans la vie communautaire de l'Église. Je lisais des textes de Balthazar ce matin, et il disait que la religion personnelle, qu'il peut y avoir une religion personnelle, mais que cette religion personnelle, elle ne peut pas être autre chose qu'une religion communautaire, vous voyez ? Et du coup, c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir du personnel avant le communautaire. C'est-à-dire que l'expression de la foi, elle est personnelle, mais cette expression de foi personnelle, elle doit s'exprimer communautairement, en communauté. Parce que chacun, chacune qui exprime sa foi prend l'autre à témoin en communauté de sa foi et vice-versa. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt parlant. Donc c'est avec ce que nous sommes, avec notre propre histoire que nous construisons notre foi, à condition qu'elle s'inscrive pleinement justement dans cette foi communautaire qu'est l'Église. C'est pourquoi l'expérience que nous faisons aujourd'hui de la révélation est faite de multiples expériences de la présence de Dieu et même parfois du sentiment de son absence. Parce que c'est ça aussi. On doit consentir à cela aussi dans la foi. Par moments, Dieu est absent. Bon. Sans ce dernier sentiment d'absence, notre foi ne serait pas une foi responsable, acquise tout entière au Seigneur, c'est-à-dire une foi qui peut aujourd'hui se passer de signes. Parce qu'en fait, c'est ça notre grand enjeu. On n'a pas connu le Christ. Nous n'avons que les Écritures, que la foi des apôtres qui parlent à notre foi. Ben, si ces hommes se sont engagés, sont morts pour le Christ et sont morts de cette mort-là quand même, c'est que ben, ça doit être quand même quelque chose. Ça engage notre foi. C'est pour ça que cette phrase de Balthazar sur l'idée de personnel et communautaire, c'est important. Parce que s'il y a une manière de dire, vous pouvez avoir une foi personnelle, mais cette foi personnelle, elle doit se dire ensemble, enfin dans la communauté. Bon, voilà. C'est bon pour aujourd'hui.
Merci beaucoup.
À la fois prochaine. Merci.